La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
Et l'invité de la bibliothèque de Radio-Orient est Didier Nebeau, auteur de La Reine des Sables, l'extraordinaire épopée de la KNA, aux éditions Éric Bonnier. Bonjour.
Bonjour.
Alors Didier Nebeau, votre roman historique s'inspire de l'histoire vraie de la KNA, reine d'une tribu berbère de confession juive qui résista à la conquête arabe au 7e siècle. C'était au temps des califes omeyyades. Un roman passionnant qui nous permet de connaître davantage celle qui a été parfois considérée comme la Jeanne d'Arc d'Afrique du Nord. Votre roman est suivi d'un essai historique sur la présence juive dans le monde arabe, sur la présence juive en Afrique du Nord. D'abord, pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce personnage de la KNA, puisque la première édition de votre livre est parue en 1998 ?
Oui, alors voilà, moi effectivement je suis juif, je suis né en Algérie et quand j'étais très jeune, tout le temps on me disait que la KNA faisait partie de la culture juive et comme elle faisait également partie de la culture berbère, c'est un phénomène qui m'a interpellé toute ma vie, enfin toute ma jeunesse on va dire, et puis à un moment donné j'ai eu envie de me pencher sur cette histoire extraordinaire, juif et berbère, qu'est-ce que ça veut dire, je comprenais pas très bien, et j'ai lu non seulement les auteurs arabes, mais surtout les auteurs très anciens, les auteurs latins, j'ai la chance de pouvoir manier le latin, c'est comme ça, avec le dictionnaire, le Gratio bien sûr, et j'ai traduit du Saint-Augustin, du Tertullien, du Saint-Cyprien, du Dion Cassius, et j'ai trouvé une histoire extraordinaire que j'ai eu envie de retracer, d'écrire. Alors j'avais deux options, soit c'était l'essai historique pur et dur, comme il en existe beaucoup, soit... tout en faisant quand même, comme vous l'avez signalé, l'essai historique à la fin du livre, j'ai préféré partir d'une manière romanesque, un côté romanesque, parce que dans le roman, on peut mieux mettre les sensations, les sentiments qu'ont pu éprouver les gens de ces époques-là.
Alors, vous rappelez que la présence juive était importante en Afrique du Nord, dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Comment s'explique cette présence juive dans la région ?
Eh ben c'est tout simple. Si vous voulez, on va se replacer au début de l'ère chrétienne. Au début de l'ère chrétienne, la Judée est soumise par les Romains et les Juifs qui s'y trouvent sont obligés de partir. Ils partent, ce qu'on appelle la diaspora, un peu partout, mais beaucoup partent effectivement en Afrique du Nord, en Tunisie, ça s'appelait pas la Tunisie à l'époque, ça s'appelait l'Ifriqiya, en Numidie, c'est-à-dire l'Algérie. Et également au Maroc, c'était le Maghreb al-Aqsa. Et donc, beaucoup de ces Juifs qui sont partis à cette époque très ancienne se sont retrouvés dans les villes soumises aux Romains. Et c'était des Juifs soumis aux Romains. Effectivement, quand vous lisez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les traductions tout au moins de Saint-Augustin, de Tertullien, ils parlent de cette présence juive excessivement nombreuse. Quand je dis excessivement nombreuse, il faut relativiser par rapport à la quantité global des autochtones qui étaient là avant, on va dire, les berbères de souche, on va dire que cette présence juive représente, avait une étude poussée quand même vraiment, entre 20 et 30%, je pense. Donc il y a une première présence juive qui vient de Judée au début de l'ère chrétienne, comme je vous l'ai dit, mais il y a une deuxième présence juive, encore plus importante, qui a échappé à tout le monde. C'est une présence juive qui vient de Libye, de Cyrénaïque et d'Égypte. Parce que, à l'époque, la Cyrénaïque et l'Égypte, qui étaient soumises d'abord aux Grecs et ensuite aux Romains, s'est révoltée, il y avait une présence juive, mais c'était la majorité des gens étaient juifs, avec un temple, ça on le sait pas, il faudrait faire une deuxième émission presque avec vous, un temple qui existait, en plus du temple de Jérusalem, un deuxième temple qui était là en Égypte, et là vous avez un syncrétisme juif, c'est-à-dire vous avez eu des juifs de Judée qui sont arrivés en Égypte, avec beaucoup d'autochtones, c'était des Libyens, ce qu'on appellera après les Berbères, qui est un terme romain, qui vient de barbare, tout ça on le sait, et ces Juifs en 118 après Jésus-Christ, après avoir pris le pouvoir pendant 3 ans, vous entendez bien, 3 ans, Cyrène et Carthagine, ces Juifs et ces autochtones berbères ont été chassés par les Romains, et ils se sont retrouvés pendant 4 siècles dans les steppes prédésertiques du Sahara. Ils pouvaient pas remonter parce qu'il y avait des Romains. Et donc ces Juifs et ces berbères très importants constituent vraisemblablement l'élément essentiel qui contribue à cette tribu de la Kaina qui était juive, mais on va dire judéo-berbère, pas juif pur, j'en suis pratiquement certain, mais des bons éléments juifs et des bons éléments berbères, ce qui fait que cette union judéo-berbère est vraiment réelle.
Didier Nebeau, on va parler de la Kaina. D'abord, d'où lui vient ce surnom, puisque dans votre roman, elle est désignée par son prénom, Daya, en tout cas pendant la première partie, vous écrivez que c'était une fille des montagnes.
C'est ça, bien sûr, tout ça c'est connu, c'est une fille des Aurès. En fait, ce qui s'est passé, pourquoi elle s'appelle Kaina, en fait, on se replonge toujours encore dans l'époque ancienne. Et dans l'époque ancienne, apparemment, de manière superficielle, quand les Arabes sont arrivés, ils ont d'abord défait les tribus païennes ou chrétiennes berbères, on va dire ça comme ça, alliés aux Byzantins, c'est-à-dire les Grecs chrétiens. Ensuite, ils ont détruit Carthage avec les Byzantins. Et il restait des dernières tribus, les tribus des montagnes, là-bas, des Caïnes. Pourquoi je vous dis Caïnes? Parce que je vous le répète, au 7e siècle, ces tribus arabes arrivent donc d'Arabie. Et en Arabie, ces tribus arabes ont défait 2 tribus juives. Et les tribus juives, c'est les tribus où il y a des prêtres juifs et qui s'appellent Caïn. Et le féminin de Caïn, c'est Kaina. Donc quand ils arrivent dans le Maghreb, il y a, après avoir défait, je vous l'ai dit, les tribus berbères, païennes ou chrétiennes, et les tribus chrétiennes avec les Byzantins, il restait dans les montagnes les tribus où il y avait des prêtres, les Caïn. Et il y avait une reine qui s'appelait donc la Kaina. Voilà d'où vient le nom Kaina, tout simplement. Et c'est pas le mot sorcière. Ça, c'est une déformation secondaire pour dire sorcière. Mais à l'origine, ça veut pas dire sorcière.
Alors, dans le roman, vous montrez que la Kaina est une femme d'une grande sagesse, très influencée par son père. Elle rendait la justice. Elle était reine d'une tribu, une reine combattante. Comment expliquez-vous qu'une femme, à l'époque, ait pris de telles responsabilités?
Alors, là, c'est compliqué, puisqu'on n'a pas des détails précis. Donc, une extrapolation personnelle, bien sûr, il faut se mettre dans le contexte de l'époque, qui est une époque difficile, dure, et pour pouvoir gouverner en tant qu'homme, déjà, il faut être assez dur. Et pour qu'une femme puisse gouverner auprès des hommes, il faut qu'elle soit encore plus dure. Mais c'est pas le seul exemple d'une femme qui a commandé aux hommes dans ce 7e siècle. Il y en a eu quelques autres, une ou deux, mais pas plus. Donc, vu la personnalité, ça c'est quand même dit dans certains écrits, puisque un des écrits arabes explique que elle était douée d'une grande beauté, qu'elle était recherchée en mariage par les chefs les plus puissants, et que c'est pas elle qui devait donc hériter du trône, c'était un tyran, et donc ce tyran, elle l'a épousé, et ensuite elle a tué pour prendre sa place, parce que il faisait régner une grande tyrannie. Donc en fonction de ça, on extrapole sur son caractère, qui devait être certainement assez fort pour pouvoir oser tuer son mari, qui était un vrai tyran. Voilà donc comment je crois qu'on peut expliquer cette personnalité. Et puis ensuite, à la fin de sa vie, vous allez peut-être en parler ou je vous devance, puisque voyant qu'elle allait perdre la guerre, donc l'histoire dit qu'elle a mis le feu à tout l'Ifriqiya, ce qui doit être faux, parce que n'oubliez pas qu'avant elle, il y a eu des combats pendant des temps entre les Byzantins et les Vandales qui ont fait pas mal de destruction. On met sur le compte de la Kaina des destructions qui ne lui reviennent pas, la malheureuse, je pense.
Didier voilà. Nebeau, comment a commencé la révolte des Berbères et où les combats se sont-ils déroulés?
Alors oui, donc effectivement, il y a eu plusieurs révoltes. Il y a d'abord la première révolte, comme je vous l'ai dit, c'est pas comme l'Arabie qui les Arabes qui s'installent en Égypte très rapidement et ça s'est passé en peu de temps. Donc en Afrique du Nord, cette conquête s'est faite en plusieurs vagues. D'abord, c'est assez loin, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Donc il y a eu d'abord des sortes de petites razzias et c'est comme ça que les premières razzias opposaient plutôt la Kaïna n'existait pas encore, hein. C'était dans un premier temps, on la voit arriver qu'à la fin des combats pratiquement. Donc cette conquête s'est faite progressivement. Donc il y a d'abord eu, comme je vous l'ai dit, des petites luttes entre les Byzantins et les Arabes arrivants. Donc comme c'était très loin, ils ont créé une place forte qui s'est appelée Kairouan, qui est devenue plus tard une vraie ville. Mais ils avaient besoin des Arabes, puisqu'ils venaient pas par la mer, ils avaient besoin d'un endroit, donc ils ont créé Kairouan. Et à partir de là, il y a eu donc effectivement un tas de conquêtes, de défaites multiples, avec Saïla, qui est quand même un autre personnage assez emblématique, qui s'est converti plusieurs fois, qui a été battu, qui a fini par battre les Arabes. Ils sont revenus, ils sont repartis. Enfin, c'était une conquête très, très, très multiple et très compliquée.
Ce qui a été le plus difficile pour la Kaïna, ça a été d'unifier les tribus berbères. Il y avait trop de rivalité entre elles.
Oui, c'est ça. Alors, effectivement, l'histoire dit que dans un premier temps, elle a pu réunir sur son nom toutes ces tribus qui étaient très disparates. Certaines étaient donc chrétiennes, d'autres étaient païennes, d'autres étaient juives, bien sûr, d'autres étaient mixtes. Et l'arabe arrivant, dans un premier temps, elle a été capable, après ses défaites, parce qu'avant elle, les berbères ont gagné, ont perdu, ont gagné, ont perdu. Et donc, elle a été capable d'unifier donc la plupart de ses tribus dans un premier temps. Et elle a gagné dans une grande bataille qui s'appelle la bataille de la Meskhiana, avec une stratégie fantastique, puisque avec des chameaux qui étaient au fond de cette oued, la Meskhiana, qui s'appelle l'oued Nini aussi, ces soldats se sont mis sous les chameaux, ils ont laissé arriver donc les troupes arabes, et après les troupes arabes croyaient que le gros des troupes de la Kaïna était là, misérable quoi, alors que non, lorsque les arabes sont arrivés dans l'oued, du flanc des collines tout autour sont descendus des myriades de combattants et c'est comme ça que la Kaïna a gagné sa première guerre. En plus, non seulement elle a gagné sa première guerre, elle a fait un grand prisonnier qui s'appelait Khaled et qui a été vraisemblablement, l'histoire ne le dit pas, mais les quelques textes que nous avons le prouvent, qui a été son amant et qui a été aussi l'espion qui aller vers Khaled, qui envoyait des messages en lui disant ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire pour continuer la conquête de cette Ifriqiya, de Suez et de cette Numidie. C'est comme ça que ça s'appelait.
Alors si la Kaïna a résisté vaillamment à la conquête arabe, elle a fini par perdre le combat, Didier Nebot, elle a été décapitée près d'un puits. Oui. Que sait-on de sa chute et des dernières années de sa vie ?
Alors oui, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que il faut se mettre dans le contexte de l'époque, encore une fois, et puis dans le contexte de la région. Donc, ce sont des gens qui sont plutôt nomades, ou s'ils sont pas nomades, ce sont des transhumants. Donc, je vous disais, donc c'était des clans, une multitude de petits clans qui vivaient de manière difficile, soit dans les montagnes, soit dans les petites steppes semi-désertiques du coin. Dans un premier temps, chacun avait son indépendance. C'est pour ça qu'elle n'a pas réussi dans un second temps. La Kaïna, il y a deux périodes en quelque sorte. Il y a trois périodes. Il y a une première période qu'on connaît mal, c'est sa jeunesse, où certainement elle se forge, où son mari arrive, où elle l'assassine, comme je vous l'ai dit. Et c'est pas elle qui est devant le devant de la scène de la guerre avec les Arabes, c'est que Saïda, et c'est les Grecs. Donc quand elle apparaît, dans un premier temps, elle est capable de réunir sur son nom justement toutes ces tribus disparates qui n'ont pas les mêmes coutumes, parce que c'est l'unité, parce que l'envahisseur arrive, parce que il faut se défendre. Mais ils avaient donc des coutumes pas tout à fait les mêmes, puisque certains étaient juifs, certains étaient chrétiens, d'autres étaient païens. Ce qui a été possible dans un premier temps, dans un deuxième temps, donc dans la deuxième partie de celui, la Kaéna n'a pas été capable de continuer à faire l'union autour de son nom. Alors, donc, comme elle n'a pas pu faire l'union, elle a été, là, c'est l'histoire qui le dit, elle a été plus brutale, plus violente. Elle n'acceptait pas de ne pas continuer à faire en sorte que tous ces gens-là la suivent, et ils n'ont pas suivi. Et quand l'islam est arrivé à nouveau, ben, ils se sont rendus les uns après les autres, et la Kaéna est restée seule avec son dernier carré. Et puis, comme vous l'avez dit, effectivement, c'est pas moi qui l'ai dit, ni vous, c'est l'histoire, elle s'est sauvée, elle a refusé, elle a ordonné aux siens de se rendre, de se convertir, parce que le clan était plus important que la vie était importante. On est donc dans des temps difficiles, elle n'a pas accepté, elle s'est sauvée, et Hassan l'a rejoint, l'histoire dit que c'est près d'un puits. Et alors on dit le puits, il est là, on ne sait pas où est ce puits en fait. Et elle a été décapitée. Voilà l'histoire de cette femme, de cette Jeanne d'Arc, comme vous avez dit, extraordinaire, magnifique, personnage mythique, emblématique, moderne, très à la mode aujourd'hui, puisque la femme, à juste titre, veut sa liberté. La Kaéna, elle a été l'une des premières à représenter la liberté.
Et vous rendez cette Kaéna très vivante dans votre roman. D'autres auteurs, Didier Nebot, comme vous, se sont intéressés à la Kaéna. Kateb Yassine, bien sûr. Je pense aussi à Gisèle Halimi, qui avait peut-être lu votre roman quand il est paru en 1998.
Je sais, j'ai rien dit à l'époque. Oui. Alors, elle s'est inspirée de mon livre, je sais.
Comment expliquez-vous le succès de la Kaéna, le fait qu'elle intéresse autant les gens? C'est en raison de son identité, parce que c'est une femme, parce qu'elle est à la fois juive et berbère, elle incarne une identité plurielle de l'Afrique du Nord?
Oui. Et puis c'est une femme qui accepte pas la défaite, c'est une femme qui est pour sa liberté, c'est une femme qui est pour des valeurs, et c'est une femme! Une femme qui réagit, une femme qui ose commander aux hommes. C'est rare, ça. C'est rare.
Merci Didier Nebot. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce très beau livre, La Reine des Sables, l'extraordinaire épopée de la Kaéna, qui est donc republié ces jours-ci aux éditions Éric Bonnier. Merci.
C'est moi. Merci.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.